VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Bamako, 13h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Au Mali, l'installation des autorités intérimaires dans le nord du pays prévue par l'accord de paix de 2015 et qui a connu plusieurs reports se déroulera du 28 février au 3 mars. Les dirigeants provisoires devront gérer les 5 régions concernées en attendant l'élection par la population d'assemblées régionales dotées de pouvoirs importants. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, patron du front anti-djihadiste au Sahel depuis 5 ans, a fait hier ses adieux à l'Afrique. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Jean-Yves Le Drian quittera son poste en mai avec la fin du mandat du président François Hollande et l'élection d'un nouveau président. Sa tournée de vendredi à dimanche a pris des airs de voyage d'adieu. À Gao, au Mali, il a répété qu'il n'y a pas d'autre choix que le combat face aux groupes terroristes. Il a demandé à son homologue malien de faire plus et plus vite dans l'application des accords de paix de 2015. Un attentat suicide a fait 80 morts en janvier à Gao et mercredi dernier, 16 soldats nigériens ont été tués près de la frontière avec le Mali. À Niamey, le président nigérien Mahamadou Issoufou et à N'Djamena, le tchadien Idriss Déby ont tous salué l'ami africain sur le départ.
Nigeria, deux Allemands enlevés la semaine dernière dans le nord-ouest du pays ont été libérés, mais on ne sait pas s'il y a eu paiement de rançon pour leur libération. Idriss Fall.
Les deux archéologues de l'université Goethe de Francfort sont libres, selon une source du ministère allemand des Affaires étrangères. Ousmane Aliou, porte-parole de la police de l'État de Kaduna, a confirmé leur libération sans révéler leur identité. Il a ajouté qu'à sa connaissance, aucune rançon n'a été payée et aucune arrestation n'a été effectuée parmi les ravisseurs. Les deux hommes avaient été enlevés dans le village de Djengela, dans le sud de l'État de Kaduna. Deux villageois qui avaient tenté de les secourir ont été abattus. Leur enlèvement a eu lieu près de la route reliant l'aéroport de Kaduna à Abuja, la capitale fédérale. Le gouvernement nigérian a annoncé la fermeture de l'aéroport d'Abuja pendant 6 semaines pour réparation à compter du 8 mars et tous les vols intérieurs doivent être détournés vers Kaduna. Les compagnies internationales ont refusé d'atterrir à Kaduna, invoquant des problèmes de sécurité et d'infrastructures vétustes.
En Afrique du Sud, depuis 2 semaines, les villes de Johannesburg et Pretoria sont secouées par une vague de violences xénophobes, ciblant en particulier les immigrés africains. Et écoutez le témoignage de Mark Bafou, président du Forum de la diaspora africaine basé à Pretoria.
Les Sud-Africains ont commencé avec le maire de Johannesburg en début du mois de décembre qui a tenu des propos comme quoi tous les migrants illégaux sont des criminels et doivent quitter sa ville. À côté du centre-ville Rosettenville, il y a eu des maisons qui appartenaient aux migrants qui ont été brûlées, environ 22 maisons brûlées. Pour se donner une bonne raison, ils ont accusé certains Nigériens qui vivaient dans ces quartiers, d'organiser la prostitution et d'être dealers de drogue. À Pretoria, c'est tous les étrangers maintenant, les Pakistanais, les Somaliens, les Zimbabwéens, les Nigériens, tout le monde était attaqué à Pretoria. Et ceux qui attaquaient demandaient de quitter la ville de Pretoria. Ils en ont marre. Les étrangers viennent voler leur emploi, amènent des maladies. Les étrangers sont le mal qu'ils sont en train de traverser aujourd'hui.
Mark Bafou, président du Forum de la diaspora africaine basé à Pretoria, en Afrique du Sud.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, dans la fièvre du FESPACO. Les 20 longs métrages en lice pour succéder à Fièvre du Marocain Hicham Ayouch, dernier étalon de Yenenga en titre, sont issus de 14 pays d'Afrique et aussi de la Guadeloupe. L'Afrique de l'Ouest, avec 7 pays et 10 films, est la plus représentée. Parallèlement à la compétition, le FESPACO a ouvert une lucarne de réflexion sur la professionnalisation des métiers du cinéma en Afrique. Voici ce qu'en pense Clément Tapsoba, critique de cinéma et expert de la Fédération panafricaine des cinéastes.
Le métier du cinéma est devenu un métier porteur. Porteur dans ce sens qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'y engagent et qui est pour, qui a une plus-value autour donc des métiers du cinéma dans la plupart des pays maintenant. Et le Burkina est bien placé pour en dire. Mais seulement qu'il y a des insuffisances en matière de maîtrise de la technique, de l'écriture du scénario et bien d'autres éléments qui sont liés à la formation et au métier. Il y a des métiers qui ne sont pas encore couverts dans notre cinéma et il faut effectivement examiner tout cela pour savoir comment faire en sorte que les cinémas soient vraiment un métier d'avenir, mais aussi qu'ils puissent concourir avec des produits de grande qualité.
Clément Tapsoba, critique de cinéma en Afrique. Et on reste dans le domaine du cinéma, mais aux États-Unis maintenant. Cérémonie des Oscars à Hollywood dimanche soir, après un cafouillage inédit, Moonlight a remporté hier l'Oscar du meilleur film, battant le favori La La Land pour la plus prestigieuse récompense du cinéma américain. Le cabinet d'audit, chargé de la remise des trophées aux Oscars, a présenté aujourd'hui ses excuses pour l'erreur dans l'attribution du prix du meilleur film, affirmant que les acteurs Warren Beatty et Faye Dunaway s'étaient vus remettre la mauvaise enveloppe. Anastasi Toudjesh, jointe par Anne Albertson à Hollywood, nous fait revivre la soirée des Oscars.
La dernière étape de la cérémonie, le moment le plus attendu, où l'on décerne l'Oscar du meilleur film de l'année, eh bien, a été un fiasco. Warren Beatty et Faye Dunaway, appelés sur scène pour l'annoncer, ont annoncé La La Land au lieu d'annoncer le bon film qui était Moonlight. Alors peut-être pour nos auditeurs, je vous propose de résumer les deux films. Moonlight raconte l'histoire dans les années 80 d'un jeune noir qui vit dans les quartiers pauvres de Miami, dévasté par le crack. Et en fait, on suit ce jeune homme sur trois périodes, l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Et il est isolé, ce jeune homme, parce qu'il est noir, il est pauvre et sa mère est accro au crack et se prostitue occasionnellement pour se procurer justement l'argent et consommer ce crack. Et donc, il est complètement isolé, passé à tabac par ses camarades, parce qu'il est comme ça timoré et renfermé. Et en plus de cet isolement, eh bien, il réalise qu'il est homosexuel. Donc, ça fait un peu beaucoup pour une seule personne. Et c'est cette éclosion à lui-même à laquelle on assiste avec une très grande poésie, beaucoup de pudeur et un très grand respect dans le rapport du réalisateur à son sujet. Le scénario a été récompensé comme meilleur script. Voilà pour Moonlight. Pour ce qui est de La La Land, on est dans quelque chose de beaucoup plus léger. On est dans un hommage à toute cette culture et cette tradition des comédies musicales. On pense notamment à Jacques Demy, entre autres. Voilà, c'est une comédie musicale qui raconte l'histoire à La La Land, qui est le surnom de Hollywood, d'un jeune couple. Elle a ses rêves d'actrice, lui a ses rêves de musicien. Ils s'épaulent jusqu'au moment où leur chemin se sépare, mais avec la magie de La La Land, tout est bien qui finit bien. La La Land est ce qu'on appelle un feel-good movie. On se sent bien, on se sent léger. La musique est formidable. D'ailleurs, elle a été fortement récompensée ce soir.
Et donc, pour revenir sur la cérémonie elle-même, qui était aussi assez feel-good, je crois, non ?
Totalement. Alors, feel-good et en même temps consciente. C'était vraiment la question qui hantait les esprits avant le début de la cérémonie. C'était, est-ce que Hollywood va pencher pour le glam ou est-ce que Hollywood va être, cette soirée très hollywoodienne, va être très politique ? Eh bien, ça a été les deux. En général, et vraiment de manière très équilibrée. Je dirais qu'un artiste sur deux sur scène a exprimé de manière à la fois très élégante et très sérieuse eh bien son opposition sans jamais le nommer aux nouvelles lois de l'administration Trump. Je pense notamment à Gael García Bernal, acteur mexicain, qui a dit qu'en tant qu'acteur, en tant que travailleur immigrant, en tant qu'être humain tout simplement, il s'opposerait de toutes ses forces. Il ne pouvait pas accepter qu'il puisse y avoir des murs érigés. Le présentateur lui-même, Jimmy Kimmel, a vraiment parsemé toute sa présentation de pique à l'encontre de Donald Trump, allant même jusqu'au milieu, quand il est arrivé au milieu de la cérémonie, allant même jusqu'à s'inquiéter de ce que le président n'ait pas encore tweeté sur ce qui se passait dans le Dolby Theatre.
Anastasi Toudjesh à la soirée des Oscars d'Hollywood. Et on reste aux États-Unis. Le président Donald Trump doit prononcer demain son premier discours devant les deux chambres réunies du Congrès. À Washington, le chef de l'exécutif américain a déclaré dimanche qu'il détaillerait demain la manière dont il compte remplacer le Obamacare, la réforme de l'assurance maladie du président Obama. Et on termine avec l'Algérie où un policier a déjoué une attaque suicide devant un commissariat dimanche soir à Constantine dans l'est du pays en tirant sur la ceinture explosive portée par le kamikaze.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. La musique a...